Choc est en recrutement. Viens faire partie de notre belle équipe à titre de directeur ou directrice de l'information, technicien ou technicienne sonorisation et audio et graphiste. Pour plus de renseignements, consulte notre page Facebook ou écris-nous directement à candidature@commercialchoc.ca.
Salut, ici Lisa Kepinski, vous écoutez Choc.ca. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, déjà le 217e épisode donc de notre superbe balado. J'ai un peu fail mon fade out, mais c'est pas la fin du monde.
Ouais, c'est correct.
Amélie?
Oui?
Puis les Europes?
Ben, j'ai été pour le mariage d'une amie, puis j'étais super excitée d'aller à son mariage. Et puis j'ai eu Covid, donc j'ai pas été à son mariage.
Oh non!
Bah ouais, donc voilà, les Europes au lit avec la fièvre et tout et tout. Et puis au retour, oh bah non. Le petit test pour prouver qu'on n'a plus Covid.
Ben ça achève les tests puis tout ça.
Là, ouais, mais le test en soi, c'est pas
ça qui t'a dérangé, c'est plus de manquer le mariage.
Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme... Bon, ça va, hein, ma copine est super cool, elle a abandonné son mari, elle est venue s'occuper de moi.
Non, pas pour vrai.
Ah bah si, le lendemain, elle a dit « Bon, bah écoute, ma copine, elle vient du Canada, je vais aller passer quelques jours à son chevet, et puis voilà quoi, tu t'occupes de ranger. »
Oh mon Dieu. Hey, je vais dire bonjour à Marie-Ève, puis après, j'ai une anecdote. Marie-Ève.
Oh. Allô?
Ça va?
Ça va, toi?
Fatiguée.
Ouais, same.
La journée a commencé très tôt, puis c'est ça, là, tu sais, comme j'ai pas arrêté, là. J'ai eu une demi-heure de pause aujourd'hui. Pour une journée qui a commencé à 8h30, c'était un petit peu intense. Et là, on est 8h le soir. Donc, voilà. Non, mais j'ai une anecdote, en fait, de mariage, en fait, parce que je me suis mariée il y a quelques années, là, déjà, en 2014. Ça va, c'est bientôt notre anniversaire de mariage. Puis, quand je me suis mariée, en fait, le lendemain, on était complètement crevés, là, justement, de cette journée-là. Puis, quand je me suis réveillée, le surlendemain du mariage, on dormait dans un petit 4,5. On était comme dans une salle double, là, genre c'était comme le salon, puis ensuite c'était notre chambre, puis il y avait pas de mur, là, tu sais, bref. À un moment donné, c'est ça. Donc, on s'est mariés samedi, dimanche, journée relax. Lundi matin, je me réveille, et là, la personne avec qui je me suis mariée était assise sur le divan. Puis j'ai fait comme, bon, mais ça y est, ça c'est déjà la fin de ce beau mariage. Mon Dieu, ça aura pas duré long feu. Et là, donc, mon partenaire se réveille, puis il fait comme, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Puis je suis comme, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Puis il est comme, on a des punaises de lit.
Oh non!
Oh non! Ça a fait genre, oh, phew! Oh, tabarnak! C'est ça. Fait que, bref, mon anecdote de réveil post-mariage. Bref, on parle pas de ça aujourd'hui, on parle pas de mariage, on parle de... Ben, peut-être qu'on parle de mariage, parce qu'on va parler d'une série que je n'ai pas vue. Donc, ben, en fait, j'ai vu les trois premiers épisodes.
Je te confirme qu'on parle pas de mariage.
Ben, voilà. mais on parle de beaucoup, beaucoup de choses reliées, donc, au temps, la vie, l'amour, la mort, puis tout. Des questions trop grandes pour nous autres, comme chantait l'autre. on parle donc de la série Netflix de Sandman, donc la série qui vient de la bande dessinée de Neil Gaiman, une série qui est sortie chez DC.
Oui.
C'était pourquoi donc on revoit des personnages qu'on a vus dans d'autres séries d'ici. Donc ça c'était quand même intéressant, mais qui parle grosso modo donc d'un personnage principal dont le nom m'échappe.
Morpheus.
Morpheus. Ben oui, hein, Morpheus. Parce que ça m'a tout fucké au début, parce que j'ai dit que j'ai pas écouté la série, mais j'ai écouté les 3 premiers épisodes. Puis ça a pris du temps à te comprendre que Death, c'était pas Morpheus, parce que là, au début, il appelle Death, puis là, il arrive, là, c'est pas la bonne personne, mais là, c'était quoi son vrai nom, là, tu sais, en tout cas, bref. Tout ça pour dire qu'il appelle donc, on est vraiment dans l'époque, en fait, du spiritisme, là, si je peux dire. Donc, vraiment, là, l'idée du spiritisme du début du 20e siècle et tout ça, où des gens font des cérémonies tout, et ce qu'on a vu dans plusieurs autres œuvres culturelles, sont une tentative de spiritisme, donc pour attirer la mort et pour pouvoir la contrôler, pour une raison que je ne comprends pas, les personnes ont
fucké. Parce qu'il, son fils préféré est mort à la guerre et il veut revoir son fils.
Ah oui, mais j'allais dire, je comprends pas pourquoi est-ce que ça a pas marché, parce que dans le fond, ça a pas marché, parce qu'au lieu d'appeler la mort, ils ont appelé le marchand de sable. Fait que, bref.
C'est ça.
Fait que, donc.
Ils ont appelé le frère de la mort.
Ben voilà. Fait que, en appelant le marchand de sable, donc, il le dépouille de tous ses avoirs, il l'enferme dans une espèce de socle, et donc, il lui dit, il va falloir que tu me dises, que tu me dises tous tes secrets, ou je sais pas trop quoi. Appelle la mort. En fait, il voulait que lui-même appelle la mort. Morpheus, donc, de façon super passive-agressive, décide de ne plus dire un câlisse de mots pendant un siècle, mais finit donc par être capable de sortir de son socle, et lorsqu'il retourne à son pays des rêves, qui était, ma foi, merveilleux et complètement en désuétude, et complètement, donc, laissé à la dérive, et il reste presque plus rien. Il doit donc rebâtir son monde, retrouver ses artefacts, et pour ce faire, donc, voyager dans le magnifique lore de l'univers que Neil Gaiman a imaginé, donc, pour parler de la vie, de la mort, puis toutes ces questions-là trop grandes pour nous autres.
Exact.
C'était la prémisse du show, donc, qui est un show Netflix. Si on peut, avant de parler de certains éléments extra-diégétique de l'œuvre, et intra-diégétique, dis-je. C'était quand même une série qui était attendue avec beaucoup, beaucoup de passion, là. Je pense que les fans de la série étaient assez intenses sur le fait qu'ils attendaient, mais quasiment avec un brick pis un fanal, là, tellement est-ce qu'ils l'attendaient.
Mais surtout que, à travers les 30 dernières années, il y a souvent eu des projets. Puis Neil Gaiman faisait exprès de saboter le projet parce qu'il était pas content des choix. Donc, c'est là que tu sais que le créateur veut vraiment le meilleur pour ses créations à lui. C'est quand il sabote des projets pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelque chose de trop mauvais fait avec.
Puis je peux que lui donner raison, parce que quand on voit ce qu'ils ont fait avec American Gods au niveau d'Amazon, oui. T'es un peu en mode...
Ah ouais, c'est pas bon?
Bah, la première saison est bonne.
La deuxième est correcte, puis après ça, ils ont tout changé.
Ouais, puis il n'y a plus rien qui suit, puis c'est comme super lent,
Mais j'ai pas vu la troisième saison, mais c'est, ils ont cancellé un personnage qui était super aimé, qui était un des meilleurs personnages, parce que c'est une gang d'exécutifs blancs qui était comme, on n'a pas besoin de ce personnage-là, qui est un personnage noir fâché.
Ah!
En pleine, tu sais, il a fait un gros speech sur... l'esclavage et sur comme les droits. C'est Tekkeni, il a fait un gros speech là-dessus, puis c'était bon. Là.
Attends, c'est l'acteur ou l'actrice, ça, qui était fâchée, ou c'était
le personnage?
Le personnage fait un speech sur cette actualité-là à l'intérieur de la série.
Ouais. Ouais. Puis les producteurs étaient comme, l'Amérique a pas besoin de ça présentement.
Ben non, hein?
OK.
OK. Fait que bref, tout ça pour dire que cette série-là était attendue avec énormément de...
Beaucoup d'impatience.
Et apparemment que ça a été un succès la semaine où c'est sorti, parce que les 10 premiers épisodes sont sortis en une semaine, puis ont sorti un 11e épisode par la suite. Ouais. Le nombre d'abonnements qui s'est fait à Netflix, donc, aurait dû justifier, en fait, une deuxième saison, mais ne le justifie pas. Probablement pour une raison, là, j'ai pas tout lu, là, mais probablement pour une raison qui ressemble peut-être à ce que Sense8 a... Tu sais, Sense8, c'était très culte. Il y avait des gens qui l'aimaient, mais il y avait pas assez de monde qui l'aimait pour justifier les coûts de la série. Là, je pense que c'est pas une question de nombre de personnes. Je sais pas c'est quoi la justification.
Je sais pas, c'est Netflix qui...
À mon avis, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas resté assez longtemps au top 3 des séries écoutées dans le monde et ce
mais
genre
aussi,
de
je pense que Neil Gaiman s'est fait dire des choses différentes, parce que lui s'était fait dire, après un mois, si c'est encore au top, ça va être renouvelé. Puis il est encore au top après un mois mondialement. Puis il n'y a toujours pas eu de nouvelles. Donc, on sait pas.
Ça, c'est non. Ça, c'est non.
Mais Neil, il dit qu'il y a des, un plan B, C, D, E, si jamais Netflix laisse tomber la chose.
Pour que la série puisse continuer à vivre à l'extérieur de ça. Mais c'est, tu sais, ça, c'est parce que c'est le modèle Netflix, tu sais, qui crée ça aussi, là, tu sais, je veux dire, le fait de tout sortir d'une shot. Tu sais, puis je parlais de ça avec d'autres personnes qui disaient, ouais, mais c'est pour ça qu'on veut rester abonné à Netflix, parce que au moins eux autres nous permettent de binge-watcher des séries, tu sais, j'ai pas besoin de...
Ouais, mais ils annulent toujours tout. Parce que ils veulent des nouveaux membres. Fait que oui, une première saison va amener des nouvelles personnes. Mais après ça, une deuxième saison sort, ben, elle attire pas autant de personnes que la première saison. Mais parce que le monde sont déjà abonnés. Fait qu'ils ils voient pas des chiffres de nouveaux abonnements qui arrivent grâce à la deuxième saison. Fait que là, ils laissent tomber pour une troisième. T'es juste, oui, mais.
Mais il y a des gens qui se désabonnent puis qui se réabonnent.
Ben oui.
Puis des fois, il y a des gens qui attendent deux, trois séries qui les intéressent pour se réabonner pour tout écouter d'une shot, là.
Ouais.
Mais c'est peut-être aussi
je fais ça avec Amazon Prime.
Ben c'est
ouais,
ça.
Moi aussi beaucoup parce que ben à la longue ils sont tous chers quoi.
Ben c'est ils sont tous chers puis tu sais je veux dire Netflix a du bon matériel mais pas assez suffisant pour justifier d'y rester. Tu sais puis moi je me désabonne pas parce que je suis paresseuse là mais tout ça pour dire que je trouve ça vraiment dommage parce que tu vois si on se fie à d'autres séries phénomènes comme House of the Dragon, je veux dire, à la fin du premier épisode, je pense le lendemain matin ou le soir même, il annonçait la saison. En fait, non seulement il annonçait la saison 2, mais il annonçait 9 autres séries dans l'univers de Game of Thrones qui allaient sortir sur HBO.
Oh, God.
Donc là, c'était comme... c'était vraiment ça, là. C'était comme ça passe ou ça casse. Ah, le public est là, le phénomène est là, les critiques sont bonnes. OK, on est parti, puis on fait le Ghostverse, là, t'sais.
Ouais, mais je pense que Netflix, ils ont pas compris qu'il faut maintenant faire comme Disney, comme Marvel, Disney, Marvel ensemble, tu sais, qu'il faut créer un univers, et puis le garder à sa source et le développer, ce genre de choses, ils sont beaucoup en mode, c'est ça, être en consommation directe, et puis on n'en parle plus, quoi. Ça se voit aussi dans leur politique qu'ils font à l'heure actuelle de vouloir voir pour changer les abonnements, d'interdire si tu utilises si quelqu'un d'autre utilise son compte ou tes trucs du genre, hein, je veux dire bon après c'est comme toute industrie à l'heure actuelle, ça veut du cash avant de vouloir quoi que ce soit quoi.
Fait que tout ça pour dire que la première saison est sortie donc 10 épisodes plus un épisode spécial donc un vous pourrez me donner plus de détails parce que je n'ai pas vu. Mais on n'a aucune idée s'il y aura une deuxième saison.
Non,
pas encore.
Ça, c'est l'extra-diégétique au niveau de la production. Donc, qui se passe à porte fermée. On n'a pas beaucoup d'idées de ce qui se passe. Mais je trouve ça juste vraiment dommage, là, parce que je me dis, il me semble que les chiffres sont là. Peut-être pas sortir toutes la même journée. Je veux dire, comme c'est rare quand même que les gens sont capables d'écouter les 10 épisodes dans la même journée, mais... T'sais, si l'enjeu, c'est que ça dure plus que 3 jours, le trip, ben, diffuse-les à coup de 2-3 épisodes par
jour. Puis surtout, comment The Sandman est fait, il aurait pu avoir un bon hype de semaine en semaine, parce que oui, il y a une ligne narrative, mais aussi chaque épisode a son propre petite histoire comme une BD. Mais
tu vois, moi, je suis le genre de personne chez qui ça m'aurait vraiment pris la tête. Je préfère à la limite, j'aurais préféré, tu vois, parce que la manière dont la saison fonctionne, c'est que t'as les 5 premiers épisodes qui fonctionnent ensemble en tant qu'une histoire, et ensuite les 5 autres. J'aurais préféré qu'ils fassent comme certaines séries qui étaient sorties il y a quelques années, où t'avais genre, au lieu d'avoir 18 épisodes pour la saison, ils te faisaient genre la moitié, et puis tous les 6 mois, t'avais quelque chose d'autre. C'est DreamWorks qui fait beaucoup ça avec Netflix avec leurs dessins animés pour quand ils ont sorti Voltron et puis quand ils avaient sorti aussi She-Ra.
Ouais.
Leur saison était coupée, mais c'était tous les 3 à 6 mois, t'avais des épisodes en plus, ce genre de choses en fait.
Puis Sabrina aussi, c'était comme ça. Tu sais, t'avais comme, mettons, avant Noël, t'avais comme la moitié de la saison. Puis après Noël, t'avais l'autre moitié de la saison, là, des choses comme ça. Là.
Puis ça, moi, je préfère, parce que je suis pas le genre de personne qui suis assez patiente de me dire « Ah, oh, je vais regarder un épisode par semaine » ou de me dire « Ah, oh, bah aujourd'hui, c'est réservé à telle série. » Non, j'ai besoin de pouvoir avoir mon agencement à comment je vais les regarder, à quel moment et puis dans quelles conditions. Que Amazon, tu vois, c'est ça qui entre guillemets, m'emmerde quand ils ont sorti The Boys ou quoi que ce soit, c'est que ben c'est tous les vendredis que ça sort, puis il faut que t'attends les autres, donc au final ben je regarde pas la saison, puis c'est genre 3 mois après, je suis comme mais je suis pas en retard d'une saison moi, puis là je me réabonne et puis je regarde.
Moi aussi je suis plus du genre à les écouter toutes d'une shot ou attendre que ça soit toutes sorties, même à l'époque qu'on n'avait pas de Netflix et tout ça. t'attendais que tout soit disponible. J'avais aimé ça, faire ça pour Marvel quand j'étais dans Marvel. Là, j'ai eu un down de tout ça, j'en écoute plus vraiment. Mais tu sais, écouter Falcon and Winter Soldier puis Loki à chaque semaine, j'avais trouvé ça le fun, mais aussi je l'écoutais avec une amie. Mon amie avec qui j'allais au cinéma voir les films de Marvel, bon, on était en pandémie, on pouvait pas aller au cinéma, donc elle venait chez moi pour les écouter ensemble. C'était...
Ouais, ben c'est ça, tu sais, moi aussi, c'est ça qui est arrivé avec The Sandman, c'est que j'avais commencé à l'écouter il y a comme un mois, je pense, quand on avait dit que c'était notre un de nos thèmes qui s'en venait, puis j'avais un Watching Buddies, puis j'étais comme fait, ah, ok, ben on a écouté comme 3 épisodes et demi d'une shot, puis là, ça a fait comme, ok, cool, la prochaine fois, on réécoute, puis ben à un moment donné, le Watching Buddies, ça y a pris plusieurs tentatives, où est-ce que je disais, on écoute ça, il fait comme, ah non, on écoute ça autre chose à la place, pour finalement qu'ils me disent, il y a 2 semaines, genre, ouais, ben c'est ça, là, j'ai pas tant envie de l'écouter, la série. Fait que j'ai fait comme, bon, ben, OK, ben, je vais l'écouter par moi-même, mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai pas pu la continuer par la suite. Revenons donc au contenu de la série. Donc, on avait fait une petite, un petit préambule et tout ça. Marie-Ève, toi, t'as lu les bandes dessinées.
Oui, ben, en fait, je me suis rendue jusqu'au volume 7.
Il y en a combien?
Il y en a 10, mais la série couvre juste le premier volume, peut-être le deuxième. J'ai oublié de revérifier. Mais je sais que le Dream Country, c'est comme le 11e épisode sort du 2e volume ou 3e volume, mais c'est, il y en a pas beaucoup là. Ça va pas loin.
Parce que moi, généralement, comme tout ce qui est BD, etc., etc., je suis pas une personne qui lit énormément de comics. En revanche, je suis une personne qui passe des heures à fouiller les Wikipédia liés aux comics.
Ah.
Parce que je sais pas, il y a quelque chose. Bah, en fait, le problème souvent, c'est que je trouve que les comics sont chers. Et The Sandman est un comics extrêmement cher à acheter.
Là, je vais mettre mon.
Oui.
Ça coûte cher, mais.
Ça vaut la peine.
T'habites à Montréal.
Oui.
Et à Montréal, pas la BANQ, là, comme. Laisse faire ça, là. Le réseau des bibliothèques de Montréal a une collection de bandes dessinées complètement hallucinante. Quand tu veux quelque chose qui est pas là, tu le fais commander, ça arrive vraiment rapidement. C'est sûr que là, tu sais, souvent quand la série est en train de jouer, ben là, comme il y a des listes d'attente pour pouvoir lire les bandes dessinées et tout ça, mais il y a un choix énorme de bandes dessinées, et si c'est pas à ta bibliothèque, mais que c'est dans une autre bibliothèque, ils le font livrer à ta bibliothèque.
Oui.
Puis ça coûte rien. Puis en plus, ils ont comme quasiment, ça existe quasiment plus, les frais de retard. Fait que, si l'enjeu, c'est l'argent, et que t'habites en ville à Montréal, la bibliothèque, c'est ton ami. C'est vraiment
c'est
là. Je prends le temps de le dire parce que peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas, mais c'est le choix de bande dessinée et le fait que c'est pas cher puis que c'est super ouvert justement à ce que ça soit accessible puis que ils ont bien réalisé qu'à un moment donné les frais de retard faisaient que les gens ne ramenaient pas les livres. Ils sont quasiment tous abolis là, fait que puis à l'époque le plus cher que tu pouvais payer de frais de retard, ça, c'était à l'époque, c'était 2 piastres.
Ouais.
Tu peux pas payer plus que ça. Puis je pense que même ça, ça n'existe plus. Non. Fait que tout ça pour dire que courez à vos bibliothèques si vous habitez la métropole.
Ouais. Mais oui, je suis totalement d'accord. Généralement, la bibliothèque, c'est où je vais. Mais là, c'est parce que, tu sais, je sais qu'un jour, je vais me les acheter. C'est juste que là, à chaque fois que je vois les collecteurs, je veux dire, il y a eu un peu avant que la série sorte, la Collector Edition qui était ressortie et tout. Puis le temps que j'allais dessus, elle était déjà à 1000 pièces. J'étais comme, non.
Ouais, non, attends que le hype redescende un peu. J'ai eu la chance d'avoir une amie, il y a quelques années, qui me prêtait son boîtier de collection. Et je la vois pas souvent, donc je vais lui redonner la prochaine fois, je vais la voir et je vais avoir fini.
Mais c'est ça.
Ouais.
Mais du coup, j'ai énormément été creusée au niveau du Wikipédia pour comprendre qui étaient les personnages, qui étaient ceux qui n'existaient pas dans le film ou ce genre. Enfin, ils sont tous là, en fait. Il y en a vraiment pas que je me suis dit, attends,
Les gros personnages importants sont là, oui. Ouais. La plupart sont là. Puis c'est ça que tantôt, Elisabeth t'a parlé du... l'histoire qu'il faut qu'il retrouve ses outils, mais en fait, comme la saison 1 est basée pour coup, qu'il reconstruit le Dreamland. Donc, c'est la première moitié, c'est lui qui retrouve ses outils, puis après ça, c'est lui qui finit de retrouver les 3 cauchemars qui se sont sauvés.
OK.
Ben, c'est pas trop... C'est... Ouais. Enfin, c'est 2 cauchemars et un qu'on sait pas trop.
Ouais, ben, ils les appellent des cauchemars, là, mais...
C'est ça.
Il y en a un qui est pas vraiment très cauchemardesque, là, mais...
Ah, oh, ben, tu sais, les costumes, c'est relatif.
J'avais pas vu, je sais pas pourquoi j'avais manqué ce casting-là, mais quand je l'ai vu apparaître à l'écran, j'ai fait casting parfait, puis il a fallu que j'écrive à toutes mes amies. C'était Stephen Fry.
Mm-hmm.
Et il était comme littéralement parfait pour le rôle. J'ai jamais vu un rôle aussi parfait pour lui.
Mais à dire vrai, je trouve qu'au niveau du casting, j'ai pas eu une seule fois un moment où je me suis dit « j'aurais pas pris cette personne pour faire ça ».
Moi, il y a juste la voix du corbeau.
Oui.
Que je sais pas pourquoi, elle est juste pas... Non, elle est pas mauvaise, là, mais elle est juste... Il y a un petit quelque chose qui m'accroche moins.
J'aime bien l'acteur qu'il fait.
Mmh.
Donc, c'est peut-être pour ça, mais il y a ce petit côté comme si ça m'a pas trop... Le corbeau m'a pas dérangé. Il y a vraiment... Non, je pense que j'ai vraiment eu aucun moment. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, bon, je veux dire, Neil Gaiman étant anglais, il y a énormément d'acteurs que tu regardes et t'es comme, ah, bah oui, effectivement, c'est tel acteur anglais qui joue dans la série parce que, bah... C'est toujours les mêmes qu'on voit, tu sais. Je veux dire, tu retrouves des acteurs qui sont aussi dans Good Omens. Tu retrouves des acteurs qui sont dans d'autres séries anglaises que tu vois. Donc, il y avait ce petit côté comme, ah, on regarde une série faite par des Anglais.
Il y en a beaucoup de Doctor Who.
Oui, exactement, tu sais. Donc, il y a...
Moi, le casting de Dream / Morpheus...
Il est parfait.
Mais, tu sais, c'est un personnage que je connaissais pas, mais je trouvais ça tellement fou, la face qu'il y avait, cette espèce de face comme... un peu angélique, tout jeune, tu sais, tout ça, mais avec une voix grave, là, et profonde, là. Je trouvais vraiment que c'était un casting intéressant, mais je sais aussi qu'il y avait eu, je pense que Constantine étant un personnage de DC, dont on annonçait aussi un nouveau film. Mais là, j'ai pas suivi, là, mais apparemment que ils reprennent Keanu Reeves pour refaire un nouveau film, mais qui c'est pas suivant le film, mais c'est suivant une série télé qu'il y a eu sur Constantine. Enfin, de même.
J'ai pas vraiment suivi, j'ai juste vu l'affiche qu'il l'annonçait.
Moi, ouais. Je me rappelle un peu de la série parce qu'il y a quelques éléments de la série Constantine qui se retrouvent dans la série Flash, Arrow, etc., etc. Et qui vont voir la série Lucifer. Parce que Lucifer fait aussi partie de The Sandman et ensuite a eu sa propre BD en basant de ça.
Donc, je l'ai pas écouté. Lucifer sur Netflix.
Ouais.
C'est le même Lucifer.
Ça arrive de très loin. Parce que dans la BD de Sandman, là, ça va être spoiler pour saison 2, par contre.
Ouais.
Vas-y.
Mais Lucifer, éventuellement, décide fuck it, je ne veux plus être le roi de l'enfer. Ça me fait suer. Je suis tanné. Dream, je t'ai dit j'allais me venger, ma vengeance c'est te donner les clés de l'enfer, débrouille-toi avec ça, moi je m'en vais, ciao, bye. Et il quitte avec Mazzy Keane. Et ensuite ça a fait des BD spin-off qui suit Lucifer et Mazzy Keane. Et là Netflix ont fait une série, ben pas Netflix.
Non, pas Netflix, c'était CBS je crois.
Ouais, il y a une série télé qui a été faite, ils ont juste pris la prémisse de Lucifer et Mazzy Keane quittent l'enfer. Et là, ils ont construit un univers autour de ça où est-ce que c'est procédural avec des policiers puis tout ça.
Ben, ça. Ouais, puis après, Netflix l'a récupéré et là, c'est devenu moins procédural et on suit donc Lucifer qui essaie de se rabibocher avec Dieu, avec sa mère. Et,
mais ce qui joue présentement sur Netflix, c'est un spin-off d'un spin-off réadapté. Donc, okay. C'est lié, mais c'est loin.
C'est loin l'un de l'autre.
C'est loin. Mais c'est comme quelque part dans le générique, c'est écrit inspiré du personnage de
exactement. Dans les BD, le Lucifer de Sandman, dans les BD, c'est littéralement David Bowie.
Mmh. Ah, ben, casting de feu dans ce cas-là.
Ben oui.
Oui.
Parce que je passe d'un endroit à l'autre, là. Mais voyons, la personne qui fait...
Gwendolyn Christie,
donc qu'on a vu dans Game of Thrones, qu'on a vu dans Star Wars, qu'on a vu dans Hunger Games, donc voilà, donc qui joue donc Lucifer dans la série. En fait, je l'ai pas écouté, là, mais j'arrivais, là, puis on allait la voir, là.
Ouais.
Un excellent épisode. Elle est magnifique, le costume designer... a fait une job incroyable. Toutes les costumes qu'elle a en tant que Lucifer sont magnifiques.
Mais bref, tout ça pour dire que c'est le même personnage, donc on est quand même ailleurs, puis ils n'ont pas été récupérer l'autre acteur.
Ouais, là, c'est
non, c'est ça, mais il ne fit pas l'autre acteur. Il est bon pour jouer Lucifer dans la série Lucifer, mais il ne fit pas cette version-là.
Non.
Mais donc, on a deux, au moins deux personnages qui ont, peut-être même trois, parce que, comment qu'elle s'appelle, je cherche son nom, Vivienne Achempong? Achempong? A-C-H, en tout cas, je sais pas comment prononcer ton nom, Vivienne, je suis vraiment désolée, mais qui joue Lucienne.
Oui, oui. Ah, je suis tombée en amour avec Lucienne.
Est-ce que Lucienne, c'est Lucienne dans la série de...
C'est Lucien.
C'est Lucien.
C'est Lucien, ouais. C'est ça. Ouais. Okay, il y a au moins trois gender cross dans la série.
Et c'est un homme blanc?
Ouais,
dans
c'est
la
un
BD.
Homme blanc dans la BD.
Ben, homme, je m'excuse, là, mais avoir ses oreilles, c'est pas très humain, là. Donc, parce que Lucienne a comme des espèces de... Tu sais, comme, c'est très...
Un peu elfique.
Un peu elfique, ouais. C'est ça. Un peu elfique, mais quasiment hobbitesque, je sais pas comment dire, parce que ses oreilles sont comme un peu ratatinées. Mais c'est comme pointu, ouais. Mais...
Ils sont beaucoup plus pointus dans la BD. Ils sont...
OK, c'est ça. On est vraiment plus proche des elfes. Là, j'avais quasiment l'impression un peu farfadesque, là. Mm-hmm, même si c'était une personne svelte, une personne, très sérieuse. Donc, Lucifer, Morningstar, Lucienne et Jenna, Constantine, là, qui était un personnage féminin. Mais est-ce que dans la série de bande dessinée, c'était le Constantine de DC?
Oui.
Donc c'est ça.
Oui, c'est ça, parce que la première BD était beaucoup plus reliée avec l'univers de DC que la série télé, puis que le reste de la BD. Donc c'est dans l'épisode 5 que t'as pas vu, mais John qui est ça, c'est l'épisode 5, c'est l'épisode là, avec beaucoup de gore, puis plus rough.
C'est l'épisode que j'ai eu vraiment du mal.
J'avais peur de la commencer parce que la BD m'avait choquée. Si j'avais fait « Oh, je m'attendais pas à ça ». Puis l'épisode est moins pire parce qu'il est violent, il y a du gore, mais ils se sont pas autant entendus sur le... C'est le côté horrifique de ça, puis il n'y avait pas de violence sexuelle d'ajouter en plus.
Okay. Mais en fait, moi, ce qui m'a tuée avec cet épisode, c'était le build-up qui monte, mm-hmm. qui monte. Il y a un moment, j'étais comme, bon, là, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on commence à s'entretuer parce que je ne peux plus en prendre.
OK, OK.
J'ai besoin qu'il y ait un boom, là. C'est...
Mais c'était ça, la magie de la chose. Que, mais, si tu le sais, ça s'en vient, ouais. Mais c'est ça. Mais lui... dans la BD, il est enfermé à Arkham Asylum.
Ah ben là, tout est dans
tout.
Parce
que c'est un criminel fou. Mais là, dans le film, il est quelque part à Manhattan, je pense, dans un grand édifice complètement blanc, un hôpital psychiatrique avec les murs blancs, puis vraiment, c'est le moins descriptif possible.
Ah, John, tu veux dire le fils de la madame, là, qui est comme, elle qui a ramassé, je sais plus lequel des items.
Le rubis.
Le voilà.
Mais, donc...
qui est joué par le gars qui jouait Lupin.
Exactement.
Oui, exactement. Puis il est très bon dans le rôle. Il y a aussi John Constantine qui n'ont pas pu reprendre parce justement DC tenait au droit. Et il y a aussi, comme dans la BD, je sens, à un moment donné, il mentionne la Ligue des Justiciers ou des affaires de même pour... C'est juste dire qu'ils sont dans le même univers, mais là, ils ont juste complètement coupé les ponts.
Ben voilà, fait qu'on le sent, mais ils ont quand même fait des mais c'est drôle qu'est-ce que tu dis par rapport tu sais au fait que comme l'épisode 5 qui était comme difficile tout ça, puis que dans la bande dessinée ça t'a choqué, puis quand tu m'avais parlé de ça, parce que moi je suis pas une grande connaisseur de Neil Gaiman, mais j'avais écouté Good Omens, puis je sais que toi c'était quelque chose que t'avais beaucoup beaucoup aimé aussi, puis je sais que c'est le genre de tu sais Neil Gaiman, ben là c'était Terry Pratchett aussi qui avait écrit. Tu sais, puis je trouvais en écoutant The Sandman, je reconnaissais l'écriture dans Good Omens. Tu sais, c'est vraiment pas le même ton, mais je trouvais qu'il y avait des éléments d'écriture qu'on ressentait, là.
Ouais, puis si on s'entend, The Sandman, il a commencé à écrire ça pas longtemps avant Good Omens. Puis pourquoi il n'y a pas de Good Omens 2, le livre? C'est parce que Neil Gaiman, Sandman a explosé, puis il s'est mis à être occupé avec ça. Mm-hmm. Terry Pratchett s'est mis à être occupé avec ses propres projets.
Ouais. Puis il y a fait Terry Pratchett.
Mais c'est, il y a tout le thème des créatures surnaturelles, de l'enfer, le ciel, les dieux, tout ça, c'est un thème qui revient souvent avec Neil Gaiman.
Ben, American Gods.
American Gods.
Mythologie aussi.
Il a fait Norse Mythology. Ouais. Dans Anansi Boys, c'est des dieux africains. Il aime ça, ces choses-là.
Okay.
Dans Neverwhere aussi, il y a un ange qui est comme déchu et envoyé...
Mais il y a ça, puis moi ce que je remarque souvent, c'est que à chaque fois tu peux partir avec cette espèce d'idée que bah les humains c'est juste des humains. C'est les hommes sont des hommes. C'est le côté comme ils sont capables du très beau comme ils sont capables du pire. Puis on le voit dans plusieurs épisodes, ou particulièrement le 11e, celui-là il est encore frais dans ma tête parce que je l'ai vu il y a vraiment pas longtemps.
Tu l'as vu comme cet après-midi.
Exactement. C'est ça. Et puis où elle est comme, ben tu sais, faut leur pardonner parce que c'est juste des hommes. Puis ça tu le retrouves beaucoup chez Neil Gaiman, tu le retrouves aussi chez Terry Pratchett. Puis c'est en ça que Good Omens avait aussi été un peu construit, mais je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de comme bah de la nature même de ce qu'il tente d'écrire.
Ouais, comme le beau de l'humanité, le mauvais de l'humanité, ben
tu peux pas les séparer, c'est tout ensemble.
Mais c'est pour ça, donc mon lien, c'est que, tu sais, je connais pas beaucoup son écriture, mais quand tu m'avais dit, trigger warning, si quand tu vas écouter la série, ben surtout tu me dis, Elisabeth, que peut-être que tu veux lire les bandes dessinées, trigger warning, tu sais, il y a des affaires vraiment tough, puis il y a des affaires vraiment rough, puis j'étais comme, ah ouais, il me semble que, tu sais, c'est pas de ça que je m'attendais de cet auteur-là, mais peut-être que c'est justement parce que j'ai une méconnaissance du reste de son œuvre. Ou au contraire, est-ce que c'est parce que c'est vraiment comme ça jure dans le fond avec le reste de son œuvre une d'étaler sur des choses aussi difficiles que ça?
Non, parce que même quand tu prends American Gods, je veux dire, on n'hésite pas à te mettre les descriptions des oiseaux qui bouffent les entrailles des os, des dieux et ce genre de choses, vraiment, tu sais, du côté mythologique.
Oui, mais je mettrais ça dans la catégorie violence fantastique. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais.
Mais c'est vrai, mais j'ai pas lu American Gods.
Bah oui et non, parce que tu sais, en fait, dans American Gods, il y a un passage où t'as les Vikings qui débarquent, puis qui sont vraiment en train de faire la guerre, et puis de d'estampiller leurs adversaires en culte à Odin, etc., etc. Puis c'est relativement ce qu'on sait qui s'est vraiment passé dans les rituels et ce genre de choses. Donc oui, t'as le côté un peu genre, ok, fantastique, quand on te parle de Odin qui se pend la tête vers le bas et puis que le sang, etc., etc. Mais t'as aussi beaucoup du réel avec le côté, ben justement, où on te décrit comment il coupait les bras avec les hachettes, les machins du genre, la guerre, etc., etc. Donc c'est comme...
C'est qu'il a une écriture très variée. C'est, il fait autant des livres plus pour enfants comme Coraline ou Neverwhere, qui est un peu moins enfant, mais quand même là, que juste du fantastique, humour, le fun, genre Good Omens. Mais c'est ça, j'ai pas lu American Gods. Mais ça aussi, c'est comme, ça part d'un fait historique qu'il a étudié, donc il va pas cacher qu'il y avait de la violence à cette époque-là. Parce que ça fait pas, mais dans les choses que j'ai lues qui venaient de son imagination à lui, oui, il pouvait avoir des choses plus rough, plus violentes, il s'en cache pas nécessairement, mais j'ai pas vu autant, c'est comme pure violence sexuelle comme dans The Sandman, j'en ai pas vu.
Puis tu dis que dans le fond, si quelqu'un il nous écoute puis il fait comme, oh my god,
c'est pas juste ça, puis c'est, ça se calme après là dans les BD plus tard. Je suis rendue à la 7e, puis il y en a plus autant là. Je pensais dans les débuts.
Ok, il y en avait plusieurs événements.
Oui.
Ok, moi je croyais que c'était un événement. Ok, non, ça ponctue. Fait que c'est vraiment à savoir avant de se mettre à la lecture. Mais
c'est pas juste ça, mais il y en a quand même.
Il y en a quand même. Puis là, ce que tu dis dans le fond, c'est que dans la série télé, tu t'y attendais à ce qu'il y en aille, et il y a un événement qui est peut-être plus difficile, mais qui est pas aussi dans ta face, peut-être, que ce que la BD avait fait.
Ouais, c'est ça. Puis même, tu sais, il y a du gore, tout ça, mais on le voit pas se faire réaliser. On voit
plus le résultat.
On voit le résultat qui est dégueulasse, là, on s'accorde. Mais c'est pas aussi pire que de voir quelqu'un s'arracher un œil que de le voir à terre avec plus d'yeux.
C'est la suggestion de ce qui s'est passé.
Puis c'est la même chose dans le dernier épisode qu'il y a eu, l'épisode spécial qui est sorti. C'est deux des petites histoires des BD. Dans les BD, souvent, il y a des histoires autres qui servent un peu au world building, à créer l'univers, mais ça fait pas nécessairement avancer l'histoire. Puis c'est deux de ces épisodes-là dans cet épisode-là. Le premier, c'est celui avec les chats. Puis moi, j'étais toute contente parce que c'est David Tennant puis Michael Sheen qui faisait des personnages aussi, les voix des personnages. Mais ça, c'est tout cute, mais je savais que ça allait être rough parce qu'il y a des chatons qui meurent.
Ouais.
Puis j'étais comme, je me souviens, j'étais triste quand j'ai lu ça. Et le deuxième, c'est l'histoire de Cassiope qui s'était fait enlever par un auteur. Puis là, cet auteur-là, il est vieux, puis il donne Cassiope à un autre auteur. Et Cassiope est censée être une muse pour les créateurs. Mais cet auteur-là dit, mais c'est, ça veut pas te donner son inspiration, tu peux la prendre de force.
Oh my God.
Et j'avais vraiment peur aussi pour cet épisode-là, parce que je suis comme, OK, c'est l'épisode dans le diner, oui, il pouvait juste pas faire un viol d'une lesbienne en plus. Donc, c'est, il pouvait juste ne pas sauter ça, puis ça changeait rien à l'histoire, mais là, que l'auteur puisse avoir son inspiration à la muse parce qu'il fait un assaut sexuel sur elle, et tu peux pas vraiment l'enlever, mais ils l'ont fait d'une bonne manière, puis c'est juste, c'est plus... Sous-entendu, c'est le plus vieux des auteurs dit, tu sais, tu peux aller le chercher par force si tu veux. Puis quand il se décide de le faire, l'auteur qui est comme censé être comme le un bon garçon féministe et tout là. des fois ça me rappelle des gens que je connais. C'est il fait juste se frustrer parce qu'il est pas capable d'écrire, il a son deadline, il est comme OK, je vais perdre tout mon contrat, je vais tout perdre. Fait que là, il fait juste avoir un regard déterminé, ferme son laptop, ben, ferme son ordinateur, puis on l'entend cogner à la porte de Cassiope.
Fait que c'est sous-entendu.
Puis ouais. L'image d'après qu'on voit, c'est lui devant son ordinateur qui est capable d'écrire, puis qui a une scratch sur la joue.
OK. Mais tu vois, ça, je trouve
fait
ça...
Fait que on comprend que ça s'est passé, mais...
Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, comme... Si je peux faire un lien entre ce que tu dis, là, ce que tu décris par rapport à quelqu'un qui est comme... qui se dit féministe, qui est un jeune auteur et tout ça, je trouve qu'il y a des liens à faire entre ça et les premières anecdotes, les premiers événements de la série, où est-ce que, dans le fond, je pense qu'on est très empathique envers le petit garçon. Ouais. Donc, le gars qui fait le rituel puis qui va enfermer Dream dans la capsule et tout ça, va quand même, donc, le jeune garçon va quand même perpétuer et continuer le travail de son père. C'est expliqué, mais en même temps, malgré le fait que c'est expliqué et que ça peut se justifier, tu sais, quand Dream va sortir, Dream va faire « je m'en fous, là ».
Ouais, c'est ça.
« Je m'en fous, là, tu m'as fait souffrir, puis genre, t'as perpétué ça », puis ça revient un petit peu à ce que vous parliez par rapport au fait que ça fait partie des deux côtés. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. On parlait il y a deux semaines à l'émission de Solar Opposites avec Isabelle Sarsville, puis c'était quelque chose qu'on parlait beaucoup, en fait, de l'utilisation de ces extraterrestres-là pour parler de la nature humaine. Mais lorsqu'on prend des gens qui sont à l'extérieur, c'est toujours plus facile pour parler de la... Tu sais, les mettre dans des situations fantastiques, ça peut quand même permettre de parler de la nature humaine. Là. Tu en parleras à Stephen King, là, c'est juste ça qu'il fait. Mais... au contraire, je trouve que quand c'est des observateurs du monde humain, ça aussi, c'est vraiment fascinant. Puis c'est ce que j'avais l'impression aussi de voir. Là, c'est comme, tu sais, ces gens-là, ça, ils s'appellent les Endless. Là, puis tu sais, eux autres sont au-dessus de la mêlée pour plein de raisons. Mais tu sais,
ils au-dessus. Ne peuvent pas vivre sans les humains. Ouais, parce que c'est les humains qui leur donnent leur raison d'être.
Mais c'est un des éléments. Enfin, c'est là où tu vois à quel point il a fait des recherches sur la mythologie, la manière dont ça fonctionne et ce genre de choses. Parce qu'à la base, bon, la mythologie, on crée des dieux, etc., etc. Mais c'était aussi pour expliquer le monde, expliquer ce qui se passe autour de toi, expliquer l'être humain en général et comment il est né, etc., etc. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup de ça dans l'écriture de Neil Gaiman. Il écrit du fantastique, mais il écrit de la mythologie. Juste d'une autre façon, d'une manière différente, on réécrit. Moi, son épisode sur la mort est vraiment un épisode qui me touche au plus haut point. Il est magnifique, cet épisode.
Puis il vient juste après l'épisode rough.
OK.
Donc, c'est un beau moment relax puis de réflexion.
Puis surtout si tu binge-watch, on en parlera dans une émission, là, mais surtout si tu binge-watch, tu sais, c'est ça. Ouais. Faut que tu mettes des... Faut que ton roller coaster tu l'aies prévu en conséquence.
Mais c'est
de
ça. Là, c'est mon compagnon. Là, il était en mode OK. Là, j'ai besoin d'un break. Puis donc j'ai comme OK, on va continuer la suite plus tard. Mais moi, je l'attendais avec impatience cet épisode-là parce que j'avais déjà vu les coupures au niveau de la mort qui va récupérer le joueur de violon, etc., etc. Puis dans l'œuvre de Gaiman et aussi parce que à la base je connais Gaiman parce que j'ai lu Godomen, mais parce que j'étais une grosse fan de Terry Pratchett, que je suis toujours une grosse fan de Terry Pratchett, mais la personnification de la mort dans Terry Pratchett a toujours été l'une des choses qui m'intéressait le plus, parce que c'est vraiment un reflet de l'être humain, et c'est vraiment la personne qui t'accompagne pour passer dans l'au-delà. Il y a pas de jugement, il y a pas de, non, il est juste là pour t'accompagner. Et cette vision-là de la mort que j'ai ensuite revue dans Good Omens, etc., etc., je me suis toujours demandé comment elle était venue, et j'ai jamais vraiment, enfin, je veux dire, je sais qu'ils étaient amis, et que de cette relation, il y a beaucoup de choses qui est née chez l'un et chez l'autre. Et de voir la mort personnifiée un peu plus comme ça chez lui, mais avec un personnage beaucoup plus, beaucoup plus anthropomorphique, beaucoup plus, tu sais, je veux dire, elle a l'apparence humaine, c'est une femme, elle a la douceur, etc. En plus, l'actrice est géniale, c'est celle qui fait qui joue aussi dans The Good Place, qui fait la neuroscientifique.
La neuroscientifique dans The Good Place.
C'est dans, à partir de la saison 3, elle fait de la neuropsychologie avec Chidi pour voir leur cerveau quand ils sont de nouveau sur Terre, qu'il a une relation amoureuse avec elle, et dans la saison 4, elle refuse de croire qu'elle est,
Owl Battis.
Ouais, c'est ça. Donc, elle refuse de croire qu'elle est dans l'au-delà. Enfin, c'est une femme, tu sais, je veux dire, quand elle parle ou autre, tu sens le côté, tu sens en fait que t'as rien à craindre de la mort dans sa vision de faire. Puis moi qui suis une flippée de la vie, de me dire qu'un jour on va mourir, etc., etc., j'ai un côté qui me rassure beaucoup à voir cette anthropomorphie là en fait.
Ouais, et le rôle de la mort dans cet épisode là, c'est une des personnes qui va ramener un peu Morpheus en disant comme, tu peux pas toujours les haïr, les humains, pour ce qu'ils ont fait. Il va falloir que tu passes par-dessus à un moment donné. Et aussi, passer par-dessus toutes des émotions, parce qu'on voit beaucoup son passé avec ses ex aussi, parce qu'il y a un passé amoureux quand même varié, Morpheus. Et il est rancunier et fier et hautain. Puis on voit un peu dans l'épisode avec Lucifer qu'il croise une de ses anciennes amoureuses en enfer, puis elle est là juste parce qu'il veut pas la pardonner. Puis ça, c'est un des cheminements qu'il fait. Ce que j'aime beaucoup dans la série télé, c'est qu'il fait son cheminement beaucoup plus rapidement dans la série que dans les BD. C'est pas, je suis rendu au volume 7, puis il commence là à montrer des changements. Dans la série, ils l'ont fait un peu plus vite parce que tu peux pas écouter comme 10 épisodes avec ton antagoniste qui est juste tout le temps en train de...
Mais ton protagoniste qui est justement un antagoniste, là.
Oui, ben, c'est ça, tu sais. En plus, bon, je veux dire, tu regardes le gars, bon, il est beau et autre, mais s'il fait la gueule dans tous les épisodes, il y a quand même une part où t'es un peu comme... Why?
Donc, sa relation avec Lucienne est super belle dans la série parce que ça évolue un peu plus vite de... OK, oui, t'as raison, puis tu peux gérer un peu le dream world pendant que je suis pas là, ou pendant que je suis en dépression, ou pendant que, peu importe. C'est, t'as les connaissances, pis t'as l'habilité de le faire, donc voici. Mais au début, il est comme, non, tu devrais pas toucher à ça, c'est mon royaume.
Mais je pense pas que c'est contre elle. Je pense que c'est lui aussi qui se met une espèce de pression.
Oui, mais genre, c'est toujours ça, c'est mais ça ressort comme c'est sa fierté. Pourquoi il est resté un siècle enfermé, ou dans la BD 80 ans enfermé? Puis qu'aucun de ses frères et sœurs sont venus l'aider, mais parce que entre eux, ils ne se mêlent pas des affaires des autres, et il n'a jamais demandé de l'aide. Il aurait pu demander de l'aide à ses frères et sœurs. Il l'a pas fait.
Ouais. C'est quelque chose qui arrive assez tôt, là, comme notion dans la série, là. Tu sais, c'est comme... Puis encore une fois, pour chercher ses items, il pouvait demander de l'aide, mais ça, il prend tout pour aller voir Lucifer puis tout ça.
Oui, puis aller voir Lucifer, c'est une des choses que j'aime aussi dans la série. Il rentre là comme personnage, là, comme pour montrer le personnage. Il rentre là, il dit, je le sais, Lucifer est la personne la plus forte de l'univers, sauf peut-être Dieu. Et même si j'avais tout mon plein pouvoir, il pourrait me battre vraiment facilement. Et là, je m'en vais dans son royaume demander quelque chose alors que je n'ai pas de pouvoir. Mm. C'est comme, oh, OK. Good for you, ça rend la chose intéressante aussi. Il y a des conséquences, il y a quelque chose en balance qui pourrait arriver. Mais c'est une belle évolution qu'ils ont fait avec le personnage, et c'est la même chose dans le dernier épisode avec Cassiopée, qui est son ancienne femme, puis qui vole l'aider. Puis elle est comme, je pensais pas que tu viendrais m'aider, même si j'ai appelé ton nom.
Ah.
Puis oui. Parce que, puis là, après ça, moi, dans les BD plus loin, je vois c'était quoi le drame qui s'est passé entre les deux, qui était quand même intense.
Mm-hmm.
Mais c'est son début de changer, mais il réalise pas encore lui-même qu'il est en train de changer parce qu'il est trop fier.
Ah.
Mais c'est ça qui le rend attachant parce que t'es pas censé être tout le temps comme « Go, Morpheus, t'es une bonne personne », t'es comme « Ah, t'es un peu chiant ».
T'es un peu mou, t'es un peu à rien dire, t'es un peu... Tu sais, il est vraiment comme juste... C'est un observateur, puis il partage rien. C'est vraiment comme... Puis tu le vois aussi beaucoup, je trouve, avec l'histoire de comment elle s'appelle, Rose, je crois.
Oui, Rose Walker.
C'est ça, parce qu'elle, en fait, elle a le pouvoir de manipuler les rêves. C'est une humaine, mais elle a le pouvoir de manipuler les rêves. Et puis, lui, il est juste en mode... Tout le monde est comme, ben, je sais pas, faudrait peut-être faire quelque chose. Et lui est comme, moi, on va attendre, on va regarder ce qui se passe. Puis il fait rien. Puis à un moment, il va la voir, puis il fait, ben non, mais il faut que t'arrêtes de faire ça, hein, parce que c'est pas bien, t'es en train de tout détruire. Puis vraiment, à la dernière minute, quand il n'y a plus le choix, ben là, il se dit, bon, d'accord, je vais agir, quoi. Mais, ouais. Mais il est toujours en retrait de tout le monde, ouais. Tout le temps.
C'est un élément aussi dans la série qui ont diminué beaucoup, le côté horreur, pas horreur physique, gore, mais horreur psychologique, à quel point Morpheus est épeurant.
Mm.
Parce que c'est le roi des rêves, roi des cauchemars. Et c'est comme dans la série, quand il se venge du jeune qui, c'est comme, qui aurait pu le libérer quand son père est mort, mais finalement, il ne l'a pas libéré. Dans la série, il lui donne comme qu'il ne va jamais se réveiller. Il est toujours dans un cauchemar.
Ouais.
Mais dans la BD, c'est qu'il est dans un cauchemar, il se réveille en pensant « Ah, oh, c'était juste un cauchemar ». Mais et puis ça continue. C'est un cauchemar éternel, un réveil éternel qui est cette petite coche-là plus horrifique juste être tout le temps dans un cauchemar. Mais j'étais contente aussi dans l'épisode de Cassiopée, on l'a vu être comme vengeful. C'est comme te blesser Cassiopée qui est très importante pour moi. Tu vas le regretter. Et c'est intense ce qu'il fait au gars.
Bon. Ben, je suis sûre que c'était tout mérité. Je l'ai pas vu, mais...
Mais c'est une bonne vengeance. Je vais pas te le dire parce que je veux que tu aies la surprise quand tu le regardes, mais c'est...
Mm-hmm.
Et c'est très imaginatif.
En fait, le plus un peu horreur que tu peux voir, c'est avec le Corinthe.
Ouais.
Parce que lui, c'est un cauchemar. Puis en fait, il a pas de yeux, il a des bouches.
Oui, ben,
à la place
lui,
des
on
yeux.
Le voit très rapidement. En fait, ça, c'est vraiment fascinant parce que, tu sais...
Ouais, parce que c'est lui qui fait aussi qu'il est piégé.
Ben oui, parce que c'est oui, mais c'est fascinant parce que je sais pas si c'est comme ça dans la bande dessinée, mais c'est que tu sais il se fait piéger par les spiritistes là, whatever. Mm-hmm. Puis c'est mais au moment où est-ce qu'il s'en allait se débarrasser de Corinthe parce que Corinthe avait trop d'impact sur les gens, ouais. Tu sais, puis essayait de sortir du monde du rêve, puis était comme non, tu peux pas faire ça, c'est une erreur, j'aurais pas dû te créer, donc je te reprends. Puis là, ben, Corinthe, il est pas plus fou qu'un autre, là. Il fait comme, ah, ben là, au moment où t'allais me tuer, la miséricorde m'a sauvé. Donc, je vais m'arranger pour que tu souffres vraiment longtemps. Puis je pense que c'est ça. Il vole un objet en même temps. Ça se peut-tu?
Mais, je m'en souviens plus vraiment. Dans la BD, il est pas vraiment là dans les débuts. Puis il va pas parler non plus avec la fille. Mais c'était un changement que je trouve qu'ils ont bien fait parce que, c'est une BD, ça peut être décousu, c'est normal. Une mission télé, ça a besoin d'un fil directeur. Puis même si c'est deux histoires, comme cinq épisodes, ça avait besoin d'un fil directeur. Et puis, lui, il faisait un très bon fil conducteur là, pour toute l'histoire.
De un, puis de deux aussi, c'est une histoire des fois que c'est parce que, tu sais, c'est comme... Il y a des, un bon exemple, c'est Fondation. Là, j'ai pas regardé l'adaptation de Apple TV, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, en partant, t'as des personnages super importants... mais qui peuvent pas être là plus qu'un épisode, mettons si t'adaptes vraiment fidèlement, parce que c'est des sauts dans le temps, tu sais, genre, ouais. OK, on est 10 ans plus tard, on est 30 ans plus tard, on est 2000 ans plus tard, fait que, tu sais, comme les gens, tu les revois pas, tu sais, mais tu peux pas faire ça dans une série télé, là.
C'est
comme,
plus complexe.
C'est ça, tu sais, les gens, il faut quand même que tu trouves une façon de récupérer, puis c'est pour ça qu'on fait des... OK, on prend la même personne, on la fait jouer par un acteur, mais c'est comme deux personnages, des choses comme ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que effectivement, si tu dis que dans le fond... C'est un ajout donc intéressant qu'ils ont fait à la série pour comme peut-être ajouter de l'ironie au sort.
Oui, parce qu'il est très important un peu plus tard dans la BD, mais ça l'a amené. Puis l'acteur qui fait Corinthian est tellement bon parce qu'il est tellement charmeur que des fois c'est juste Ah oui, je l'aime bien. Non, pourquoi je dis ça?
Mais écoute, moi, il y avait des moments, il y a des moments où il est en train de flirter, etc., etc. Oui. Et je suis comme, oh my. Après, je suis comme, non, Dieu, te laisse pas berner, il va te manger.
J'aurais été une victime parfaite parce qu'il m'aurait eu totalement.
Puis après, tu vois qu'il s'en va juste du gars après avoir passé la nuit avec et t'es comme, oh, bah, il y a peut-être bon fond dans... Non, il y a pas bon fond. Non, il y a pas bon fond. Faut que t'arrêtes.
Mais tu sais, comme, parce que tu sais, comme, mettons, le rêve, tu sais, Morpheus, le rêve, puis tout ça. On est quand même à un certain niveau, mais le fait d'utiliser Lucifer, le fait d'utiliser Corinthe, ben le Corinthien, le fait d'utiliser Caïn et Abel aussi, mm-hmm. Fait que c'est comme, OK, on est quand même très proche du christianisme, là, quand oui. même, ou du... Ben, ou je vais dire, tu sais, du grand mythe monothéiste, là, tu sais, comme Caïn et Abel, je pense que c'est aussi dans le Premier Testament, donc oui. le
Dans l'Ancien Testament. Mais aussi, il y a d'autres dieux. Non, dans la BD, on voit des dieux japonais. On voit Loki, Odin.
Puis même, je veux dire, les trois femmes qu'il appelle, les furies, etc., font quand même partie de la mythologie grecque.
Cassiopée
aussi. Morphée, même lui-même, fait partie de la mythologie grecque.
Donc, on est
base.
Vraiment dans un syncrétisme, quand même.
C'est ouais. la mythologie avec un M majuscule,
c'est
quoi.
Cassiopée et Morpheus, quand ils étaient ensemble, ils ont eu un enfant qui s'appelle Orphée,
okay.
qui est Orphée qui va aux enfers,
okay.
et c'est ça qui comme fout la merde un peu là-dedans, mais c'est super intéressant. Et plus tard, on va voir plusieurs snippets de comme juste lui, Morpheus, comment il était dans certaines places, mais il y a un volume complet où est-ce que pas un volume, un numéro complet où est-ce que c'est juste Augustin, l'empereur Augustin.
Ah, ben pourquoi pas. Donc, Auguste, là, l'empereur après César, là?
Oui.
OK, ben pourquoi pas. Puis c'est juste lui qu'on voit?
Oui, puis il est vieux, puis il raconte son histoire à quelqu'un pendant qu'il fait assemblant d'être un paysan, puis après ça, il retourne dans sa vie, puis il va retourner faire ses cauchemars qu'il fait tout le temps.
Ah ben, pourquoi pas.
Mais moi, après, ce que j'ai aimé aussi dans la série, c'est l'humour noir. Je veux dire,
oui.
quand t'arrives au moment de, la convention céréale...
Oui, c'est...
C'est juste, t'es obligé de rire, quoi.
Bon.
Parce que c'est une convention de céréales killers, mais ils font une convention pour se rencontrer, mais de gens qui vendent des céréales.
Parce que leur... c'est ça, c'est une convention de céréales killers, mais ça s'appelle
anglais.
Céréales.
Il y a du Douglas Adams là-dedans.
Mais tellement, là.
Puis c'est ça, le fait aussi, c'est ça qui est intéressant, quand Morpheus a été... kidnappé, puis même un peu avant ça, quand le Corinthe avait commencé à faire des dégâts sur la Terre. C'était à peu près dans l'époque de Jack l'Éventreur. Puis ça dit que c'était ça son œuvre au Corinthe. Pendant qu'il était sur la Terre, pendant que Morpheus est emprisonné, il a créé un univers avec des tueurs en série.
Ça, c'est vraiment fascinant parce que je pense aussi que la notion que le moment où est-ce que, dans le fond, tu sais, il se fait comme kidnapper par les spiritistes, là. C'est avant la Première Guerre mondiale. Puis il y a comme une notion aussi que le fait que les gens ne rêvent plus, ou du moins que leurs mm-hmm. rêves deviennent complètement erratiques.
Ça, c'est quelque chose de réel. Il y a réellement eu, je pense, en Angleterre, mais je ne sais pas si c'était un peu plus, sleeping diseased, où est-ce que des gens dormaient et ne se réveillaient plus.
Ah, OK, mais j'allais... OK, dans ce sens-là, j'allais dire que... OK, il y a des gens que comme leur rêve était contrôlé de...
Ouais. Non.
Non, mais c'est quelque
mais
chose...
Mais c'est parti de quelque chose de réel, puis après ça, lui, il est parti dans son fantastique.
Mais il y a quelque chose de très intéressant avec, justement, l'époque, tu sais, comme justement, où est-ce qu'ils disent que, dans le fond, une des justifications du monde complètement fucked up, progressiste, moderniste, mais complètement dénué d'humanité dans lequel on vit, serait dans le fond une conséquence du fait que le prince des rêves n'était plus là pour comme nous faire voir des belles choses, puis qu'on voyait que des mauvaises choses, ou peu importe, là, une affaire comme ça. Mais ça fait un lien aussi, je sais pas si vous avez vu Une méthode dangereuse, le film de Cronenberg.
Non.
Parce qu'il y avait la notion là-dedans aussi où est-ce qu'il parlait, parce que c'était Jung et Freud, là, qui parlait des balbutiements. Puis c'était.
Oui. Oui, je l'ai vu.
Puis Jung, il finit en disant, tu sais, je fais des cauchemars, je vois l'Europe à feu et à sang, puis tout ça, puis bref, bon, le film, c'est le film, là. Mais il y a quand même cette notion-là aussi de l'obsession du rêve de l'époque, où est-ce que c'est comme on allait comprendre la psyché par le rêve, tu sais.
Ouais.
Puis que justement, tu sais, comme ce rêve-là était comme le dedans de nos âmes, tu sais. Il y a quelque chose, je trouve, avec l'époque que probablement que ce n'est pas un hasard que les événements se passent à cette époque-là, puis que ça a duré 80 ans, tu sais, c'est sûr que la série de bande dessinée est sortie dans les années 80, mais je trouve que ça ne doit pas être un hasard que Neil Gaiman décide, puis probablement qu'il y a des entrevues qui disent que j'ai tort ou j'ai raison. Mais parlant d'avoir tort et raison, il y a eu quand même des critiques par rapport à la série. Justement, on a parlé un peu du gender crossing et tout ça, puis de l'aspect, ouais, l'aspect queer. Puis, écoute, moi, c'est quelque chose que j'avais trouvé vraiment particulier parce que c'est quelque chose en ce moment, je trouve, qui me pèse vraiment beaucoup. Là. J'ai de la difficulté à lire sur la tu sais, c'est notre rôle ici aux Amazones de parler de la culture pop, mais j'ai beaucoup de difficulté à lire sur la culture pop en ce moment parce que je trouve que l'ambiance est complètement merdique et qu'en fait la guerre culturelle qui a lieu par rapport à toutes ces questions là comme est pas du tout fécond là, tu sais, c'est abscond même là. c'est comme ça a aucun sens, puis mais par exemple Neil Gaiman avait dit, ben si vous critiquez ma série parce qu'il y a des personnages de couleur puis parce qu'il y a des personnages queer, c'est que vous avez pas bien compris ma bande dessinée.
Oui, parce que la BD il y a 30 ans était excessivement progressive, il y avait des personnages trans, il y avait des personnages homosexuels, le fait que la mort soit noire présentement, c'est canon, ça marche parce que on voit Morpheus être noir dans le passé, dans la BD. Quand il voit son ex en enfer, on le voit quelques secondes en tant que personne noire, parce que c'est comme ça qu'elle le voit. Tu sais, c'est pas des humains, ils s'adaptent à comment les humains les voient. Et c'est on le voit déjà dans les BD, ça, qu'ils ne sont pas blancs par défaut. Donc, pourquoi le monde chiale là-dessus? Je comprends pas, il chiale qu'il y a des choses LGBT. Ben, il y en avait déjà beaucoup dans la BD, puis la BD se passe aussi dans les années 80-90. Neil a juste fait, ben moi, pour pas me casser la tête, je vais faire la série dans les années 2020. Ça fait juste en sorte qu'il est enfermé 30 ans de plus, rendu là pour sa psyché, ça fait pas une grosse différence. Puis l'univers est un peu plus moderne, puis les Endless ont suivi un peu cette modernité. Desire, le désir, était déjà un personnage gender fluid. Des fois, on le voit en femme, des fois, on le voit en homme, des fois, on le voit comme androgyne, complètement non-binaire,
ce qui me paraît
dans la
logique.
BD.
Tu sais, ce qui me paraît logique. Je veux dire, il est l'incarnation
du
désir.
Le monde qui a casté quelqu'un de non-binaire pour faire le rôle, t'es juste... Mais oui, il a engagé quelqu'un de non-binaire pour faire le rôle de non-binaire. C'est comme gender fluid. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Mais c'est ça, je veux dire, par rapport au fait qu'il y a comme... l'ambiance en ce moment, là.
Mais c'est parce qu'il y a une poignée, un microcosme très lourd et très... qui parle très fort. Puis il embrouille les images parce qu'on pense que comme, oh mon Dieu, tout le monde pense comme ça pis c'est vraiment lourd, mais non, c'est juste cette gang-là. C'est la même gang, présentement, qui écrive à Neil Gaiman pour chialer contre Ring of Powers, en lui disant, tu devrais avoir honte d'avoir fait ça, et tatatatata, pis lui, là, il joue dans le jeu parce qu'il trouve juste cave, pis comme, ben oui, c'est mon œuvre et c'est moi qui ai fait le casting, et c'est moi qui ai fait tout ça, et bien sûr, je vais renvoyer tout le monde sur ce show que j'ai fait.
Mais non, mais c'est ça. Là, en ce moment, là, je pense qu'il y a comme trop de... Je sais pas.
Trop de gens avec des accès sur Twitter.
Mais je suis épuisée.
J'ai commencé il y a plusieurs années à juste écouter des émissions pour mon fun à moi. Même le fandom, même les fans, je les trouve lourds depuis 10 ans.
Même les fans, je les trouve lourds aussi. Moi, il y a beaucoup de fandoms sur lesquels je mets plus les pieds parce que c'est too much.
Ben c'est ça, je pense que c'est ça qui est un peu tannant, c'est que je pense que ça fait partie un peu de notre rôle de commenter ça aussi, tu sais.
Ouais.
Mais j'avoue que je suis épuisée. je suis moralement et émotionnellement épuisée de ça. Puis je pense qu'on va continuer à en parler un peu, mais j'étais quand même contente qu'on prenne quand même un temps privilégié pour parler de l'œuvre, puis de ce que ça a signifié pour vous, puis de qu'est-ce que vous avez pensé. Puis on se souhaite une saison 2, si c'est pas sur Netflix.
Je veux voir les autres Endless.
Donc trigger warning quand même sur la violence, si vous l'avez pas vu encore.
L'une d'ailleurs des trigger warnings qu'on a oublié, c'est aussi la violence au niveau des enfants.
Ah oui, c'est vrai.
Oui.
OK.
Bon, on n'en a pas parlé, mais oui, dans la BD puis dans le
dans la
série.
Dans la BD, dans la série.
Bon ben bon.
Bon point final.
Oui. Non, mais je veux dire, c'est quand même à retenir parce que moi, il m'a mis extrêmement mal à l'aise, ce personnage.
Ben, bonne nuit.